pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Le 26 novembre dernier, au Bar à nous, à Paris, était organisé un débat autour du thème « Guerre coloniale et impérialiste, l'arsenal du poison et de la mort » par le collectif Vietnam Dioxine, en association avec Urgence Palestine, le média soudanais Sudfa et le collectif Guerre à la guerre. Était ainsi évoquée la question de l'armement et de la complicité occidentale, et notamment des armes chimiques, quelques jours avant la journée internationale des victimes des armes chimiques, le 30 novembre. La prise de parole concernant l'intervention d'urgence palestine n'ayant pu être prise, nous vous lirons à la place des textes, l'un traitant de l'emploi du phosphore blanc à Gaza et au Liban par Human Rights Watch, et un autre qui est une tribune, par le collectif Vietnam Dioxine, appelant à identifier les victimes pour envisager une réparation qui soit digne. Sur ce, nous cédons place aux intervenants et nous commençons l'émission. Bonne écoute.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Youssif Abdelrahman, je suis membre récent du collectif Sudfa Media, un média franco-soudanais qui a vocation à décrypter l'actualité soudanaise depuis quelques temps maintenant, qui a vocation à rendre ce conflit intelligible et à combler le vide médiatique. Donc c'est une référence avec Sandro Soudan. Donc je vous recommande de suivre le compte pour vous tenir informé, transmettre un peu les actualités autour de vous et participer aussi peut-être aux différentes différents événements qui sont organisés. Sur le contexte politique, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la situation au Soudan. Il y a une guerre de pouvoir entre deux forces, une armée régulière et une milice. Et peut-être en introduction, c'est important de parler d'étymologie qui peut permettre de définir le conflit et peut-être de le saisir. Et surtout, je souhaite écarter, et c'est familier, on travaille là-dessus, sur la formule de guerre civile. Ça permet de comprendre le conflit, c'est pas une guerre qui est nourrie par des convictions civiles. On y reviendra peut-être après. Le contexte à El Fasher, ce sont des milices menées par Daglo, nommé Hemeti, qui massacre des civils sans distinction, enfants, femmes, personnes âgées, avec une grande vulnérabilité des populations civiles dans la mesure où les couloirs humanitaires sont quasiment inexistants, qui provoquent des déplacements de grosse ampleur à El Fasher. On parle d'une crise humanitaire de très grande ampleur. Et en effet, dernièrement, il y a eu la prise par les miliciens de El Fasher, qui est une ville symbolique, l'ancienne capitale du Darfour. Donc la crainte, c'est qu'il y ait une emprise sur toute la région du Darfour, qui est très riche en termes d'or et autres ressources. La crainte, c'est qu'il y ait une sorte de partition du Soudan, voulue d'un point de vue régional et aussi global.
Merci. Du coup, peut-être pour nous éclaircir un petit peu plus ce point de guerre civile ou non, je peux aussi nous parler de la complicité française du Soudan, du lien avec les Émirats Arabes Unis aussi, peut-être.
Je crois que c'est assez intéressant de le savoir sur comment est-ce que ce conflit perdure, comment est-ce que cette milice a réussi à s'armer, à s'équiper, à se former et à tenir tête à une armée régulière. Depuis très longtemps, et c'est un texte européen qui existe, la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne, a validé tout un processus qui visait à externaliser aux frontières européennes, mais aux frontières de départ, donc la frontière soudano-libyenne, et à donner la fonction un peu de contrôle des flux migratoires à des entités locales, en l'occurrence, la milice, donc les forces de soutien rapide. Donc depuis très longtemps, il y a eu un soutien, une coopération avec la milice. Aussi, sur la complicité française, on sait par plusieurs enquêtes, plusieurs rapports, que des dispositifs d'armement sont utilisés au Darfour. Comment ça se passe? La France vend des armes aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, ensuite, délivrent ces armes avec la complicité de plusieurs pays voisins, notamment la Libye, pour l'arrivée d'armes à la milice. Sur la complicité des Émirats Arabes Unis, elle date depuis très longtemps. La milice des FSR permet, entre autres, deux axes principaux pour les Émirats Arabes Unis, c'est de l'or. Donc, dans un marché noir, il faut savoir que les Émirats Arabes Unis, peut-être le premier marché noir, mais il n'y a pas d'or aux Émirats Arabes Unis, donc tout l'or est importé en grande partie via le Soudan. En contrepartie de cet or-là, il y a un financement de cette milice et un soutien en armement. Mais c'est aussi une milice qui peut servir de mercenaire pour des guerres régionales, notamment au Yémen. Un point très important, c'est vrai qu'il y a un focus très fort sur les Émirats Arabes Unis. Toutefois, c'est un petit pays qui ne serait pas grand-chose sans le soutien occidentaux. Donc il y a une grosse responsabilité aussi sur les ventes d'armes par certains groupes français, par les États-Unis, d'autres pays occidentaux.
Je m'appelle Aziza et je suis des territoires occupés du Sahara occidental. Et il m'est vraiment très important de revenir sur l'historique de la cause du Sahara occidental, car malheureusement c'est une cause qui est très peu connue ici en France à cause du blocage médiatique sur la cause. Et quand on parle de la cause, on la réduit généralement à un conflit entre l'Algérie et le Maroc, en marginalisant le peuple sahraoui et sa lutte décoloniale. Donc le Sahara occidental était une ancienne colonie espagnole entre 89 et 75. Le peuple sahraoui s'est relevé contre l'occupation espagnole et a réclamé son indépendance fin des années 60, début des années 70. Et l'Espagne, sous la gouvernance de Franco, a fini par céder et après la création du Front Polisario, qui est le Front Populaire pour la libération de deux régions globales du Sahara occidental, qui a été créée en 73, le 10 mai. Et cela est contradictoire avec la propagande marocaine qui dit que le Front Polisario a été créé par l'Algérie pour nuire au Maroc, car le Front Polisario a été créé pour combattre d'abord la colonisation espagnole. Et donc, en 1974, l'Espagne a fait une proposition au Conseil de sécurité pour faire un référendum au Sahara occidental. Et c'est là où, soudainement, le Maroc se présente pour réclamer le Sahara occidental, alors qu'il n'a jamais réclamé auparavant. Car il faut savoir que le Maroc a eu son indépendance en novembre, le 18 novembre 1955. Et son ancien roi, Mohamed V, quand il a fait une demande d'intégration de l'ONU, la carte qu'il a proposée, c'était une carte, la carte du Maroc, comme on le connaît maintenant, qui ne contient pas le Sahara occidental. Et le contexte au Maroc durant les années de plomb a fait que le roi du Maroc, Hassan II, faisait face à un coup d'État militaire et donc c'était une solution pour lui et un alibi pour envoyer l'armée marocaine et aussi d'envoyer les civils marocains au Sahara occidental pour les distraire un peu et aussi garder et maintenir sa monarchie au Maroc. Et c'était un plan qui était soutenu par les États-Unis et également par l'Espagne, car les deux États ne voulaient pas qu'un tel régime ou un tel pays avoir lieu, car les dirigeants du Front Polisario ou le Front Polisario en général avaient des liens d'affinité idéologique, si on veut, avec les États et les pays de l'Amérique latine. Pour eux, c'était plus judicieux que la monarchie marocaine reste sur place et que le Sahara occidental soit pas indépendant. Et suite aux accords de Madrid en 1975, le Sahara occidental a été partagé entre le Maroc et la Mauritanie. Et de là, on a vu ce qu'eux appellent la marche verte, et pour nous, c'est la marche noire. Le 31 octobre 1975, où le roi Hassan II a envoyé 20 000 militaires pour envahir le Sahara occidental, et par la suite, le 6 novembre, a envoyé 300 000 civils marocains. Et dans l'idéologie coloniale, ils essayent toujours d'effacer le peuple et de changer sur place, et c'est à travers ce changement démographique qu'ils ont envoyé ces colons marocains, et l'armée était là pour les accompagner et surtout pour où il a bombardé les civils sahraouis et a causé le déplacement des milliers de deux tiers du peuple sahraoui en utilisant justement des armes chimiques et des armes lourdes et plein d'autres crimes de guerre comme la disparition forcée et d'autres violations. Et un cessez-le-feu a eu lieu en 91 et une mission de l'ONU s'est mise au Sahara occidental pour organiser ce référendum qui n'a jamais eu lieu. Et jusqu'à maintenant, la répression continue, les violations de droits humains et toutes les sortes de représailles envers le peuple sahraoui. Et bien sûr que aussi la lutte continue.
Tu peux nous parler un peu de l'usage d'armes chimiques ? Il y a un point commun là entre les différentes luttes, c'est qu'il y a eu l'usage de phosphore blanc. Développer un peu ce sujet-là et en quoi aussi ça impacte sur la durée, et c'est quelque chose qui n'a pas été connu, qui n'a pas été reconnu, malgré le fait que ce soit des armes chimiques qui sont interdites aujourd'hui.
Comme j'ai mentionné, l'armée marocaine a utilisé deux sortes d'armes chimiques contre le peuple sahraoui. C'était du phosphore blanc et du napalm. Le napalm est un carburant qui s'enflamme en touchant le sol. Le phosphore blanc, c'est une substance chimique qui s'enflamme en rentrant en contact avec l'oxygène. Et ces deux armes chimiques, ils sont extrêmement inflammables et qui sont juste impossibles à éteindre avec de l'eau. Bien sûr, l'utilisation de ces armes sur des civils a été témoignée par la Croix-Rouge suisse qui était sur place pour aider la population, parce que quand le Maroc a envahi le Sahara occidental, les deux tiers du peuple ils se sont obligés de se déplacer. Au premier, ils se sont mis dans une région qui s'appelle Amgala, c'est juste à la frontière avec l'Algérie. Et c'est là, trois mois après l'invasion marocaine, c'était en février 1976, où il y a eu ces bombardements sur des zones civiles. Et c'est là où le peuple sahraoui a été obligé à se déplacer. Et c'est là où l'Algérie s'est intervenue et a ouvert ses frontières pour accueillir ces réfugiés sahraouis. Donc ces armes chimiques, bien sûr, ont causé beaucoup de dégâts. Parmi eux, des brûlures jusqu'à l'os, donc des amputations des civils. Également, sur le plan végétable, des tels incendies, ils ont causé des astres de cette région qui a été contaminée. Aussi, la dégradation des sols et des eaux, et surtout aussi la mort des animaux. Et donc, tout ça a causé une famine globale. Et au niveau psychologique, ça reste un traumatisme collective de ce peuple. Et donc, après ça, l'utilisation des armes contre le peuple sahraoui ne s'est pas arrêtée, car quand ce peuple s'est réfugié en Algérie, le Maroc, dans les années 80, a construit le plus long mur de séparation qui est encore en existence, qui fait 2700 km et qui est planté par des centaines de millions de mines anti-personnes et anti-chars, qui cause jusqu'à maintenant des victimes de ces mines. Parce que j'ai dit qu'il y avait un cessez-le-feu entre le Front Polisario au Maroc en 91. Le Maroc a violé ce cessez-le-feu le 13 novembre 2020. Donc une lutte armée s'est déclenchée par le Front Polisario. Et là, on voit un autre moyen d'armes, et c'est les drones israéliens que le Maroc utilise pour cibler les civils sahraouis dans les territoires libérés et au long du mur de séparation. Et ces drones, ils ont aussi donné lieu à des victimes mauritaniens et algériens. Et il faut savoir aussi qu'il y a une grande complicité, comme dans toutes les causes, de la France qui fournissait des armes, ou même l'ambassadeur de la France au Maroc, j'ai noté son nom, Christophe Le Courtier, a déclaré qu'en 2024 que la France avait ouvert le feu contre le Front Polisario avec le Maroc. Et ça, on le sait déjà parce que le Front Polisario a fait tomber un avion de chasse français qui est maintenant dans le musée de la résistance, dans les campements de réfugiés. Et aussi, il y a une complicité de l'Arabie Saoudite, des Nations Unies et de la France pour la construction et l'implantation des mines sur ce mur de séparation qui divise le peuple sahraoui en deux parties, une partie sous occupation et la deuxième dans des campements de réfugiés. Et dernièrement, j'ai vu passer sur Al Jazeera et relayé par beaucoup d'autres médias que Israël ouvre une usine de drones à Casablanca. Et donc cette complicité avant était en cachette, et maintenant, après la banalisation des relations entre le Maroc et israélienne, est partie encore très loin. Mais ils rentrent tous dans la même alliance avec des puissances impérialistes et capitalistes. Et je pense que notre aussi devoir est justement que notre lutte aussi soit une lutte internationaliste pour faire barrage à ces puissances impérialistes, car dès qu'un parmi eux tombe, ils vont tous tomber, parce que c'est toujours les mêmes, la France, les États-Unis, les Émirats, l'Arabie Saoudite, qui sont impliqués à peu près dans tous ces conflits à travers le monde. Donc moi, je suis membre de la coalition Guerre à la Guerre, qui existe depuis un an, qui est une coalition anti-impérialiste, anti-militariste, qui a pris comme objet de lutte le complexe militaro-industriel français. Et qui s'est un peu construit sur plusieurs constats. Le premier, c'était qu'on avait besoin de trouver des prises concrètes dans le mouvement de soutien à la libération de la Palestine. L'autre, c'était la dynamique de fascisation accélérée en France et en Europe en ce moment, sur un fond de remilitarisation de la France et de l'Europe, avec le fait que nos gouvernements nous préparent de plus en plus à l'instauration préparent l'opinion à l'instauration d'une économie de guerre. Juste un peu quelques chiffres. La France, c'est le deuxième exportateur d'armes au monde, passé devant la Russie tout récemment. C'est un impérialisme français, c'est un impérialisme qui, certes, est un peu déclinant dans les dernières années, mais qui reste pleinement intégré dans le système mondial d'exploitation et de pillage, donc qui est membre de l'OTAN, qui maintient militairement son précaré africain, notamment au Sahel, qui maintient aussi son précaré colonial dans les pays outre-mer français à coup de militarisation du maintien de l'ordre, et qui cherche aussi sa place dans les nouvelles rivalités dans l'Indo-Pacifique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le pilier militaire et de vente d'armes de la France, c'est un des piliers du néocolonialisme français. Et c'est aussi ça qui permet aujourd'hui à la France d'être septième puissance mondiale, alors que son industrie est quand même globalement assez en déclin. Et la France compte bien rester cette septième puissance mondiale, puisque donc, en ce moment, ça ne vous a pas échappé, On est matraqué par des discours sur la nécessité du réarmement de la France, avec voilà la loi de programmation militaire qui va nous permettre d'atteindre un budget de 70 milliards d'euros par an à l'horizon 2030. L'Union européenne aussi avec le programme Rearm Europe, c'est 800 milliards d'euros par an à l'horizon 2030. Voilà, là on entend des dingueries sur le service militaire, sur le fait que l'état-major des armées a annoncé très récemment, ça vous a pas échappé, qu'il faudra être prêt à perdre nos enfants à la guerre, tout en disant que c'est les délinquants qui devront être les premiers à aller au front. Donc on se demande bien, c'est les enfants de qui vont aller faire la guerre sur le front Est. Et en fait, face à tous ces constats, nous, on était atterrés par le fait qu'il n'y ait pas de mouvement anti-guerre fort en France à la hauteur de la situation, quoi. Et donc la coalition, elle rassemble une vingtaine d'organisations pour la Palestine. Il y a notamment Urgence Palestine, il y a aussi le collectif Vietnam Dioxine, des collectifs féministes, des collectifs antifascistes, des collectifs antiracistes, des collectifs issus plutôt de l'écologie radicale. Et on travaille aussi avec une partie des forces syndicales, notamment de la CGT, dans des cadres d'inter-orga. Et en fait, on s'est un peu inspiré de... Moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre. On s'est un peu inspiré aussi des moyens et des stratégies de lutte de cette expérience politique-là, c'est-à-dire chercher de la composition et des alliances assez larges en cherchant des cibles logiques. Donc là, en l'occurrence, le complexe militaro-industriel français, pour penser ensemble des gestes communs qui vont permettre d'impacter directement la fabrique de la guerre. Et du coup, on part de plusieurs analyses et de plusieurs constats dans la coalition. Le premier, c'est l'analyse qu'il y a un continuum colonial entre la guerre là-bas et le racisme, l'islamophobie et la répression ici. Du coup, à ce titre-là, nous, on inscrit notre antimilitarisme dans les luttes antiracistes, anticoloniales et centralement avec la question de la Palestine au centre. Le deuxième élément, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de la guerre parce qu'il y a un retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen. Mais nous, ce qu'on dit, c'est en fait la guerre, elle est déjà là. La France n'a jamais cessé d'être impliquée sur des terrains de guerre, que ce soit des implications dans des guerres impérialistes directes, comme ça a été le cas en Libye, en Afghanistan, mais aussi par toutes les centaines d'opérations extérieures, les OPEX de la France. J'ai calculé, c'est 189 interventions militaires françaises depuis le début de la Ve République. Donc ça fait à peu près 3 par an. Donc la France n'a jamais cessé d'être en guerre, c'est juste que là, il y a un retour de la guerre sur le sol européen. Et le dernier élément, c'est que cette guerre, elle se fabrique près de chez nous. Là, tout ce que les camarades ont raconté, en fait, c'est Thales, Safran, Airbus, qui arment directement, qui ont des coopérations avec Israël, qui ont des coopérations avec les Émirats Arabes Unis, qui eux-mêmes arment les forces de soutien rapide. La camarade racontait aussi l'implication du complexe militaro-industriel français dans la répression du peuple sahraoui. Et donc, en fait, il y a ces géants-là, Safran, Thales, Airbus, etc. Il y a aussi tout un tas de PME, en fait, qui font du civil et du militaire. C'est des trucs duo, donc ils vont développer des types de reconnaissance, de surveillance, des systèmes technologiques, en fait, qui vont servir à la fois au civil, mais qui vont aussi servir au militaire. Et ces boîtes-là, c'est, il faut voir le guide de Stop Arming Israël, elles parsèment nos territoires. Donc la guerre, elle se fait donc près de chez nous, elle est à portée de main, à portée de nos coups. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on a des prises sur ça. Ça veut dire qu'on n'est pas impuissant et qu'en fait, on peut aller impacter, dénoncer, on peut chercher des prises sur ce complexe militaro-industriel. Juste un mot, parce que du coup, moi, je fais partie d'une organisation plutôt sur le champ de l'écologie politique. Nous, ça nous a paru très important de rejoindre cette coalition parce que dans un contexte où il y a aussi une intensification des conflits guerriers liés à l'accaparement, enfin au besoin d'accaparement des ressources, notamment aussi pour les besoins de la transition énergétique. En fait, ça nous a paru hyper important de renouer avec une tradition antimilitariste dans l'écologie politique. Voilà, c'était les luttes du Larzac, c'était les luttes de Greenham Common, c'est aussi tout l'héritage des luttes antinucléaires contre les essais français en Algérie ou en Polynésie. Et c'est aussi ce que raconte très très bien le film, et j'en dirai juste deux mots, c'est que nous, dans les soulèvements, on lutte contre ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. Et en fait, ce truc-là, ça correspond vraiment à l'adaptation des technologies militaires à des fins agricoles après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est la mécanisation avec les tracteurs qui viennent vraiment des chenilles, des tanks, etc. Mais c'est aussi toute la généralisation de l'agrochimie, comme le montre très très bien le film. Il y a d'ailleurs eu une action des soulèvements de la Terre très récemment où je crois que Vietnam Dioxine en a fait partie, de surgissement, d'intrusion sur un site BASF qui produit des pesticides et interdits en Europe pour les exporter au Brésil, donc voilà, dans des formes de colonialisme chimique. Et que un des autres trucs aussi que raconte bien le film, c'est que le concept d'écocide, qui est très à la mode dans certaines franges de l'écologie politique, etc., en fait, il a d'abord été forgé pour décrire l'écrasement d'une révolte anticoloniale, pour détruire les maquis du Viet Cong en même temps que sa résistance. Et aujourd'hui, il est très utilisé par une sorte d'écologie politique très blanche, très libérale et aujourd'hui très militariste. D'ailleurs, on a Europe Écologie Les Verts qui défend l'écologie de guerre, donc qui vote tous les crédits pour le réarmement de l'Europe, etc., qui pense que la guerre va nous permettre d'accélérer la transition énergétique, etc., et qui ont complètement vidé de sa substance ce terme d'écocide qui, enfin, le film en raconte très bien, en fait, qui vient parler d'une résistance anticoloniale, quoi.
Concrètement, tu peux nous expliquer comment agir contre ce réarmement et comment conjuguer un peu le soutien aux différentes luttes anti-impérialistes et la lutte contre ce réarmement.
Bah en fait, pour l'instant, nous, on a pris comme objet un peu les salons d'armement. C'est des endroits très importants pour l'État français et pour les entreprises du complexe militaire industriel français, parce qu'elles viennent exposer leurs armes, signer des contrats, etc. En général, le fait d'avoir été testé sur le terrain, donc combat proven, c'est un argument de vente. Donc en fait, vraiment, toutes les entreprises françaises qui ont participé aux 10 ans de guerre contre le terrorisme au Sahel, voilà, arrivent sur ces marchés en disant bah voilà, on est combat proven, ça marche très bien dans la capacité à donner la mort. Elbit System, toutes les entreprises israéliennes, c'est pareil, elles ont des arguments de vente pour dire regardez, on a testé. Donc en fait, c'est quand même des endroits qui sont pour l'instant qu'on a identifiés comme étant assez stratégiques. On a commencé notre première action, ça a été une action au mois de juin contre le salon du Bourget, qui est le plus gros salon mondial de l'aéronautique et de l'espace civil et militaire, dans lequel voilà, il y avait tout un tas d'industriels, de start-up, d'états-majors, d'armées du monde entier qui venaient voilà, exposer, présenter, vendre toute la chaîne d'approvisionnement des technologies utilisées pour la guerre, la répression et la surveillance. Donc on a fait une manifestation à Bobigny, on était 3000 selon les organisateurs, 6000 selon Urgence Palestine. Et on a organisé un salon anti-guerre donc pendant 3 jours à Bobigny avec tout un tas de discussions pour réfléchir à comment s'organiser voilà, avec des espaces en souveraineté pour les luttes antiracistes. Et il y a eu un recours juridique aussi contre la présence au salon d'entreprises israéliennes et d'entreprises qui se rendaient coupables de crimes de guerre, notamment au Soudan, mais aussi en Ukraine. En fait, le complexe militaire industriel continue à filer plein d'armes à la Russie. Donc ils nous inondent sur ce truc de la menace russe, mais en fait, ils continuent quand même à livrer des armes à la Russie en contournant l'embargo. Et ce recours, il a quand même donné lieu à la fermeture de quelques stands israéliens. Enfin, les stands qui exposaient, en gros, il n'y avait que les stands qui exposaient des technologies de défense qui avaient le droit d'exposer. Et les autres ont dû être couverts d'un rideau noir, même si on sait que les technologies de défense, ça ne veut rien dire. On est incapable de savoir, de tracer les armes, où elles vont, parce que vraiment, de toute façon, elles vont de toute façon au génocide, quoi. Donc ça, c'était une première mobilisation qui était assez enthousiasmante. Et bon, voilà, on se dit, on était 3000, c'est peu. Mais c'est déjà énorme parce que ces salons, il y a quelques années, il n'y avait que Stop Army Israël qui faisait des rassemblements devant avec entre 20 et 50 personnes. Et là, on était quand même 3000 devant le salon du Bourget. C'est qu'en fait aussi sur cette question-là, on part de rien. Enfin, il n'y a plus d'antimilitarisme en France. Quasiment toutes les forces de gauche, y compris moi je dirais la gauche de rupture comme la France insoumise, sont en train de communier dans la souveraineté militaire de la France, de Europe Écologie Les Verts à la France insoumise. Globalement, les partis de gauche sont en train de suivre en fait cette fuite en avant militariste. Donc en partant de rien, ça nous paraît déjà être une victoire assez importante. On a continué en faisant une mobilisation contre le salon Millipol, qui était beaucoup plus petite parce qu'elle était beaucoup plus spontanée. Millipol, c'est un des plus grands salons de sécurité intérieure des États, qui se tient chaque année à Paris. Donc nous, on dit salon de la guerre globale contre les peuples. C'est vraiment toutes les technologies de maintien de l'ordre, quoi. Il y avait 38 entreprises israéliennes, il y avait 12 entreprises complices du génocide au Soudan, dont des entreprises françaises. On a retrouvé des armements de la boîte KNDS sur des chars utilisés par les FSR. Donc voilà, il y a de l'armement français qui passe au Soudan. Et notamment, il y avait les camarades soudanais qui étaient avec nous ce jour-là. Et du coup, c'était aussi intéressant parce que ça permet de... Enfin, on essaye de construire petit à petit des alliances avec différentes diasporas, mais aussi avec des forces sociales plutôt syndicales. Il y a eu aussi des mobilisations contre le convoi d'armes qui passait par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, notamment avec la CGT 93, avec FO 93 et Solidaires. Et puis il y a aussi des liens qui se trament avec des soignants et des soignantes, des collectifs de soignants antiracistes qui sont aussi en train de se mobiliser contre le fait que là on est en train de demander aux hôpitaux français de se préparer à faire du soin de guerre. Donc voilà, de réduire sur la santé publique pour aller globalement sur du soin de guerre, du soin militaire, quoi. Donc voilà, on a construit toutes ces alliances dans les derniers mois. Et suivez nos réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe dans les prochains mois.
Juste avant la frappe, le ciel est vide et bleu. En bas des enfants jouent, prières et joyeux. Ils ont 4 ou 5 ans, toute la vie devant eux. Autour d'un toboggan, ça se chamaille un peu. On rit, on court, on crie, on invente des jeux. Mais dans moins d'un instant, le missile sera sur eux. Et juste après le feu, un nuage de fumée. Des petits corps blanchis, un ballon, une poupée. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, d'un côté ou de l'autre, un enfant qui meurt sera toujours le nôtre, d'une couleur ou d'une autre, d'ici ou de très loin, un enfant qui meurt sera toujours le mien. Juste avant l'impact, la route est belle et sûre pour l'enfant soldat qui a fière allure. Avec sa mitraillette, ce guerrier miniature, au sourire éclatant, ses grands yeux pour armure, qui pleure toutes les nuits, jeune souvenir dans les bras, venu jusqu'ici pour mourir au combat. Du berceau au cercueil, il n'a pas été long, petit corps étendu sous un soleil de plomb. Qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, d'un côté ou de l'autre, un enfant de vitesse ou un malentendu, une erreur de jeunesse ou un éclat d'obus. Combien d'enfants encore resteront disparus dans la folie des hommes avant d'avoir vécu.
Enfant qui meurt sera toujours le mien. Qu'il soit
Si vous vous demandiez quelle était la chanteuse que vous venez d'entendre, il s'agit de Marion Roque sur son titre « Avant d'avoir vécu ». Et nous allons passer à la seconde partie de cette émission qui vous donne à entendre un débat autour du thème « Guerre coloniale et impérialiste, l'arsenal du poison et de la mort ». Et c'était au Paranou le 26 novembre dernier.
Ma question, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas un front commun, par exemple, que ce soit sur la Palestine ou Sahara occidental. Il y a des forces politiques qui sont pour la Palestine, il y en a d'autres qui ne sont pas pour le Sahara occidental. Et pour le Soudan, la question, elle est... c'est vrai qu'elle est complexe. Avec Améthi et Al-Bouhan, ils ont été ensemble, puis après la chute, la révolution qui a fait chuter Omar al-Béchir, qui était là depuis plusieurs décennies, ça fait que les deux espaces, dans ces différents conflits fratricides, quoi, il n'y a pas, la Kamala l'a dit, la guerre à la guerre, mais forcément, il y a tous ces, je trouve que tous ces conflits ont un point commun. C'est qu'ils sont, comme je ne sais plus quel camarade l'a dit, ils sont financés par les complexes militaires industriels des pays occidentaux et les alliés des pays occidentaux. Les pays, les monarchies du Golfe. Donc pourquoi il y a une telle réticence à avoir un front commun contre toutes ces guerres? Et comme, voilà, vous avez eu ma tête, quoi. Je suis originaire d'un pays qui s'appelle le Sri Lanka, et la zone occupée au Sri Lanka, le nord du Sri Lanka, c'est le Tamilien. Et aujourd'hui, le 26 novembre, c'est l'anniversaire du leader. Du moins indépendantiste qui s'appelle le mouvement pour la libération du Tamilien, les tigres tamouls, globalement. Donc je vais juste rajouter ça pour dire d'où je viens, quoi. Et je suis né en 93. Ma question, c'est pourquoi il n'y a pas un front commun contre toutes ces guerres, alors qu'ils ont des points communs, quoi, en fonction de la vente des armes, la diplomatie des pays occidentaux et toute la diplomatie. Duplicité des pays dits arabo-musulmans.
Moi, ce que j'en pense, tu parles du complexe industrio-militaire, et moi, je pense que c'est un des outils, c'est pas là où doit être la focale. Je vais prendre l'exemple de la Palestine, mais c'est un exemple qui peut s'appliquer à tous les pays anciennement colonisés. La Palestine avant n'existait pas. C'était pas un pays en tant que tel. La Palestine, c'est le fruit de l'imaginaire colonial. C'est tel, avec les frontières qu'elle a, c'est le fruit de l'imaginaire colonial. C'est un peuple qui était dans d'autres peuples, c'est les peuples palestiniens, même qu'on devrait dire, qui sont dans un agglomérat de peuples arabo-musulmans, et qui se voient, par ce legs colonial, devoir lutter pour des frontières. Et si on prend l'exemple de tous les pays frontaliers, ils ont aussi maintenant un intérêt à essayer de protéger leurs frontières. Donc ils rentrent dans ce jeu-là, d'impérialisme et de souveraineté nationale et d'autodétermination. Et c'est intéressant ce terme d'autodétermination, parce qu'en fait aujourd'hui on parle d'autodétermination des peuples. Et quand on parle d'une autodétermination des peuples, c'est la manière dont les peuples l'ont choisi. Donc si un peuple il veut une monarchie, ben, il aura une monarchie. Mais s'ils veulent qu'il y ait une grande assemblée générale à 500 millions de personnes, ben, ils choisissent une assemblée générale à 500 millions de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, cette notion d'autodétermination, elle est biaisée par le dogme mondial qu'est l'État-nation. Donc on est obligé d'avoir une forme d'État-nation pour être reconnu comme État, et pour pouvoir avoir son siège à l'ONU, et pour pouvoir participer aux décisions mondiales. C'est aussi ça le facteur qui fait que je pense qu'on n'arrive pas à avoir ce front uni, parce que on lutte tous pour des intérêts nationaux, mais on n'arrive pas à transcender ça, parce que la répression, l'agent colonial qui est en face de nous, ben, il est beaucoup plus facile à toucher que de réussir à aller à l'autre bout de l'Afrique pour dire « Ok, mais en fait, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous puissiez vous libérer, mais en même temps, nous libérer nous ?» C'est tout un tas de facteurs, et peut-être que la réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans les fronts, mais elle se trouve dans les mains des peuples, et que c'est au peuple de réussir à saisir ces choses-là et de réussir à renverser la vapeur. Et moi, c'est une phrase qui me marque, c'est... chaque fois, la personne dont vient la phrase, je ne sais pas c'est qui, donc je suis désolé. Mais c'est que si un jour les peuples échouent dans leur lutte, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils n'auront pas réussi à se lever, ils n'auront pas réussi à se battre pour ça. Mais si ils arrivent à vaincre et à avoir ce qu'ils veulent, c'est qu'ils, c'est aussi par leur faute, parce que ils ont réussi à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir vaincre et avoir cette liberté cette liberté qu'on demande tous.
C'est une question très très pertinente, je trouve, sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un front commun. En effet, il y a des similitudes entre tous les conflits présentés. Ça pose la question aussi de la méthode d'action. Est-ce que des actions isolées d'une région ou d'une autre, est-ce qu'elles sont efficaces? D'une certaine manière, elles ne coexistent pas ensemble. Et c'est peut-être aussi l'ambition, peut-être de plus en plus, entre nous, une vocation internationaliste, pour créer une sorte de front commun et voilà, qu'il n'y ait plus de distance entre les différents conflits. Une terreur palestinienne est une terreur soudanaise, est une terreur sahara. Et donc, il y a quelque chose aussi de décoloniser l'empathie, de décoloniser même cette idée de nation. Je suis d'accord de la transcender et de créer un front internationaliste commun.
C'est juste pour savoir si vous avez des liens avec des collectifs congolais, vu que ce soir, j'en vois pas, mais aussi Ouïghours, parce qu'on parlait beaucoup de la lutte des Ouïghours il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on n'en parle plus maintenant. Est-ce que vous avez des liens avec eux, mais aussi Ukraine?
Ça va. Rapidement, sur la question du Congo, on avait fait des événements avec le camarade avec Génération Lumière, qui est une asso qui lutte contre l'extractivisme au Congo, plutôt sur l'aspect, enfin, quelle est la complicité occidentale européenne par rapport aux mines de coltan, de cobalt qui partent finalement enfin, en Europe, etc., pour fabriquer nos équipements numériques, etc.
Moi, j'ai pas compris sur d'autres luttes ou des liens qu'on fait, mais globalement, ce qui se passe, c'est que quand un peuple ou une diaspora sent le besoin, elle a d'abord besoin de s'organiser seule. C'est ce qui s'est passé avec l'urgence palestine. Donc, il y a eu un temps de construction où on essaye de voir où sont les principaux points qu'on doit cibler, le temps de construire seul ce mouvement. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des fois des connexions qui mettent du temps à se faire. Parce que les peuples ont besoin aussi de se retrouver entre eux, parler de toutes ces choses qu'ils font, qu'ils sont une diaspora et pourquoi ils sont cette diaspora-là. C'est aussi cette manière de savoir où axer, où sont leurs priorités, où aller, avec qui nouer les liens, etc. Et c'est important de leur laisser, le temps à chaque fois au peuple et aux diasporas de se préparer elles-mêmes et d'avoir. Et on sera toujours là pour soutenir s'il y a besoin, si on nous demande, si. Mais c'est aussi important de ne pas les brusquer. Et c'est aussi pour ça que parfois il y a des connexions qu'on aimerait qui se fassent, mais qui ne se font pas.
Moi, je peux juste dire, pour Gare à la Guerre, on est en lien avec les diasporas congolaises, avec Génération Lumière, mais aussi avec les collectifs d'exilés ukrainiens. Mais après, nous, on a un parti pris qui est très pragmatique, quoi. C'est qu'en fait, il y a déjà plein d'espaces d'élaboration politique. Nous, on se dit, nous, on cherche les prises, on cherche les leviers, on cherche à produire de l'impact direct, matériel, du coup. Les collectifs, ça ne les intéresse pas forcément toujours de dire, enfin voilà, on va agir ensemble contre des salons ou sur des industries militaires, ou faire des campagnes sur Thalès ou Glasso. C'est pas forcément directement dans l'intérêt de ces collectifs-là, même si on commence à avoir de plus en plus d'alliances. Après, pour répondre très directement sur les collectifs ukrainiens, en vérité, c'est pas si simple parce que nous, on a beaucoup été interpellés à la guerre par des collectifs ukrainiens qui nous disaient comment vous pouvez prendre pour cible votre complexe militaro-industriel alors que la résistance ukrainienne a besoin des armes de l'OTAN. Et du coup, bah, ça fait des discussions politiques qui sont pas simples parce qu'on comprend, on entend cette situation et on a longuement discuté. Et pour autant, on pense qu'on ne peut pas tactiquement épargner le complexe de mort occidental qui agit, enfin voilà, qui est responsable de tout un tas de situations coloniales partout sur la planète pour les besoins de la résistance ukrainienne. Enfin, c'est des discussions qui sont compliquées, mais bon, en tout cas, ça explique aussi que jusque-là, on n'arrive pas à élaborer avec les collectifs ukrainiens.
Et pour les Ouïghours, qu'on connaît, quoi. Ouais, et pour les Ouïghours.
On n'a pas de lien avec, enfin pas politiquement avec Guerre à la Guerre, après il y a des personnes, des camarades qui ont des liens, mais pas. Ouais.
Nous allons passer à présent à la lecture de textes pour conclure cette émission et nous allons commencer par celui publié par Human Rights Watch en date du 12 octobre 2023 et qui s'intitule « Israël, utilisation du phosphore blanc à Gaza et au Liban », sous-titré « L'utilisation de ce type d'armes dans des zones peuplées présente des graves risques pour les civils ». L'utilisation par Israël de munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban expose les civils à des risques de blessures graves et à long terme, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui en publiant un document questions et réponses au sujet de ce type d'armes. Human Rights Watch a vérifié des vidéos filmées au Liban et à Gaza, respectivement les 10 et 11 octobre 2023, montrant de nombreuses explosions aériennes de phosphore blanc provenant de tirs d'artillerie au-dessus du port de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise et a recueilli les témoignages de deux personnes concernant l'une de ces attaques à Gaza. Le phosphore blanc peut être utilisé pour marquer, signaler ou obscurcir des positions, mais aussi en tant qu'arme incendiaire capable de mettre le feu à des structures et brûler des personnes. Son fort effet incendiaire peut aussi mettre le feu à des champs et à d'autres biens civils dans les environs. L'utilisation du phosphore blanc à Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées du monde, amplifie le danger pour les civils et viole l'interdiction en vertu du droit international humanitaire d'exposer les civils à des risques inutiles. Chaque fois que le phosphore blanc est utilisé dans des zones habitées par de nombreux civils, cela présente un risque élevé de brûlures atroces et de souffrances permanentes, a déclaré Lama Faki, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. L'utilisation du phosphore blanc est illégale et indiscriminée lors d'explosions aériennes dans des zones urbaines peuplées où cette substance peut incendier des maisons et causer des dommages considérables aux civils. Le 11 octobre, Human Rights Watch a mené des entretiens téléphoniques avec deux habitants du quartier d'Almina dans la ville de Gaza qui ont décrit avoir observé des frappes caractérisées par l'utilisation de phosphore blanc. Une personne se trouvait à ce moment-là dans la rue tandis que l'autre se trouvait dans son bureau dans un immeuble voisin. Les deux personnes ont décrit les frappes aériennes accompagnées d'explosions dans le ciel, suivies de traces blanches se dirigeant vers le sol. Elles ont estimé que l'attaque s'est produite entre 11h30 et 13h, dégageant une odeur accablante. La personne qui se trouvait dans son bureau a déclaré que l'odeur était si forte qu'elle s'est dirigée vers la fenêtre pour voir ce qui se passait et a ensuite filmé les derniers moments de la frappe. Human Rights Watch a pu confirmer que cette vidéo a été filmée dans le port de Gaza et a identifié les munitions utilisées lors de la frappe. Il s'est agi de projectiles d'artillerie au phosphore blanc d'un calibre de 155 mm conçus pour une explosion aérienne. D'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées par Human Rights Watch montrent aussi cette attaque au même endroit. Une dense fumée blanche et une odeur d'ail sont deux aspects caractéristiques du phosphore blanc. Human Rights Watch a également examiné deux vidéos filmées le 10 octobre à deux endroits proches de la frontière israélo-libanaise. Ces deux vidéos semblent aussi montrer l'utilisation de projectiles d'artillerie au phosphore blanc de 155 mm, apparemment en tant qu'écran de fumée ou à des fins de marquage ou de signalisation. Le phosphore blanc s'enflamme lorsqu'il est exposé à l'oxygène présent dans l'air et continue de brûler jusqu'à ce qu'il soit privé d'oxygène ou épuisé. Cette réaction chimique peut créer une chaleur intense d'environ 815 degrés. Au contact de la peau humaine, le phosphore blanc peut brûler les personnes jusqu'aux os, au niveau thermique et chimique, en raison de sa forte solubilité dans les graisses comme celle présente dans la chair humaine. Les fragments de phosphore blanc peuvent aggraver les plaies, même après le traitement, pénétrer dans la circulation sanguine et provoquer une défaillance d'organes. Les plaies peuvent même se rallumer lorsque les pansements sont retirés et qu'elles sont à nouveau exposées à l'oxygène de l'air. Même des brûlures sur une faible surface du corps peuvent souvent être mortelles. Pour les survivants, des cicatrices étendues resserrent les tissus musculaires et créent des handicaps physiques. Le traumatisme lié à l'attaque, le traitement douloureux qui s'ensuit et les cicatrices qui changent l'apparence physique entraînent souvent des dommages psychologiques et l'exclusion sociale. L'utilisation de phosphore blanc dans des zones densément peuplées de Gaza viole l'obligation, en vertu du droit international humanitaire, de prendre toutes les précautions possibles pour éviter les pertes de vie humaines et les blessures infligées aux civils. Cette préoccupation est amplifiée dans le cas, comme dans les vidéos susmentionnées, d'explosions aériennes de projectiles au phosphore blanc. Une telle explosion propage 116 morceaux de feutre brûlant imprégnés de phosphore blanc sur une zone d'un diamètre compris entre 125 et 250 mètres selon l'altitude de l'explosion. Ceci expose davantage de civils, de structures civiles, à des dommages potentiels qu'une explosion terrestre. Et enfin, le dernier texte pour conclure cette émission, qui est une tribune réalisée par le collectif Vietnam Dioxine en date du 30 novembre 2025 et qui s'intitule « Les armes chimiques tuent encore, à quand la fin de l'impunité ?» Le collectif Vietnam Dioxine regroupe des bénévoles et associations qui luttent pour la reconnaissance officielle des victimes de l'usage de l'agent orange durant la guerre du Vietnam et les réparations à leur apporter. Chaque année, le 30 novembre, la Journée internationale du souvenir des victimes des armes chimiques rappelle l'urgence de reconnaître les très nombreuses victimes de ces armes, hommes, femmes, qui transmettent souvent leur pathologie à leurs descendants sur plusieurs générations, ce qui laisse imaginer qu'il y a bien plus de personnes atteintes que ne le laisse supposer le chiffre des Nations Unies, c'est-à-dire 1 million depuis la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, il est temps d'agir pour leur reconnaissance et leur accès aux soins. Entre 1961 et 1971, plus de 80 millions de litres d'herbicides furent déversés sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans le cadre de la Seconde Guerre indochinoise. La dioxine, substance toxique présente majoritairement dans l'agent orange, a affecté et continue d'affecter les populations et les sols 50 ans après les tirs et les bombes. Et malheureusement, de la Palestine à l'Ukraine, d'autres armes chimiques sont aujourd'hui utilisées contre les populations. Il ne faut pas cesser de le dénoncer et demander un recensement rigoureux des personnes contaminées pour les informer et leur apporter des soins. Après leur retour aux États-Unis à la fin de la guerre américaine au Vietnam, en 1973, certains soldats de l'US Army firent un procès à leur gouvernement pour faire reconnaître leur maladie et symptômes dus à une exposition de l'agent orange. À cette occasion, la justice américaine a reconnu qu'effectivement plusieurs maladies éprouvantes pouvaient être liées à une exposition de l'agent orange, notamment l'amylose AL, accumulation de protéines affectant gravement le cœur ou les reins, le cancer de la vessie, plusieurs types de leucémie, la chloracné, le diabète de type 2, l'hypertension, la maladie de Hodgkin, l'hypothyroïdie, la cardiopathie ischémique, la gammapathie monoclonale de signification indéterminée, le myélome multiple, le parkinsonisme, la neuropathie périphérique, la porphyrie cutanée tardive, ainsi que divers cancers comme celui de la prostate, du poumon, du larynx, de la trachée ou des bronches. Et on parle aussi des sarcomes de tissu mou. Ces pathologies sont d'autant plus graves qu'elles peuvent se transmettre de génération en génération. En effet, les enfants et petits-enfants de victimes exposées à l'agent orange héritent de la souffrance provoquée par cette arme chimique. Qu'il s'agisse de populations encore exposées, celles qui vivent sur des terres à bombarder avec l'agent orange et qui sont encore contaminées, la dioxine restant détectable dans les sols pendant plus de 100 ans. Ou de celles dont les troubles sont héréditaires. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes au Vietnam sont encore victimes de l'agent orange, mais ce chiffre, de 3 millions sur une population de 105 millions de personnes en 2024, ne reflète qu'une infime partie de la réalité, le lien de l'agent orange avec les maladies précitées n'ayant été reconnu officiellement aux États-Unis qu'à la fin de l'embargo états-unien au Vietnam par Bill Clinton en 1991. Sans compter que les maladies provoquées par l'agent orange peuvent rester silencieuses pendant des années et ressurgir bien plus tard sous forme de cancer, de malformation ou de handicap, y compris chez les descendants. Ainsi, de nombreuses personnes au Vietnam, en France, aux États-Unis, au Cambodge, au Laos, mais aussi dans les diasporas, vivent avec des pathologies graves sans jamais avoir été diagnostiquées. Victimes de l'oubli et du silence, les corps restent empoisonnés. Pour déjouer cette injustice, nous devrions établir un recensement exhaustif et international des victimes de l'agent orange. Sans une identification précise, aucune réparation digne ne pourra être envisagée et des milliers de victimes continueront à souffrir sans soutien médical, psychologique ou financier. Ce recensement devrait intégrer des personnes directement exposées, mais aussi celles qui, par contamination indirecte, continuent de porter les effets de cette arme chimique. tant que toutes les victimes ne seront pas reconnues, la justice et la réparation resteront incomplètes. La France accueille une importante communauté vietnamienne qui peut être concernée par les séquelles de l'agent Orange, souvent sans le savoir. En cette journée internationale du souvenir des victimes des armes chimiques, elle pourrait briser le silence et faire des victimes oubliées de l'agent Orange des sujets centraux de la mémoire collective. La reconnaissance, la justice et la mémoire devraient être les seules voies pour que ce crime contre l'humanité et le vivant ne reste pas impuni. C'est d'autant plus important que les armes chimiques restent utilisées lors des guerres pour détruire des peuples, et ce, malgré leur interdiction par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, signée à Paris en 1993, et l'engagement de 193 États à la respecter. Citons le gaz moutarde, le cyanure et le tabac, employés contre les populations kurdes. Plus récemment, selon Amnesty International, le gaz sarin et le gaz moutarde contre les civils syriens, la chloropicrine contre les Ukrainiens ou le phosphore blanc sur les Palestiniens. À quand la fin de cette impunité? Prouvons aux puissances qui ont recours aux armes chimiques que leurs crimes ne seront jamais impunis. Faisons du recensement des victimes de l'agent Orange un combat pour la justice. Faisons des recherches sur l'hérédité de ces pathologies un combat pour tous.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.